Je suis très, très heureux de vous retrouver quelques siècles plus tard. La dernière fois qu'on s'est vu, on ne savait pas qu'il y avait des choses prévues dans l'agenda interplanétaire qui n'étaient pas dans notre agenda. Mais est-ce qu'il y en a qui savent que peu importe ce qui se passe dans l'agenda, Dieu est au contrôle de tous les agendas? Ça a été un plaisir. Que Dieu vous bénisse. On se revoit l'année prochaine. Ce matin, je suis vraiment heureux de participer à cette journée. Je crois, Pasteur Sophie, je crois que Dieu va parler à des personnes ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu parle. La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde. Mais je crois que dans ce lieu, ce matin, il y a des gens qui vont prendre garde à ce que Dieu dit, parce que rien de mieux que ce que Dieu dit. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la Bible ici? Si vous êtes ici pour la première fois ou les premières fois, tout ce que nous enseignons ici est fondé sur le fondement de la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant dans ce monde que la parole de Dieu. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Facebook. » Ce qu'on entend vient de TikTok, encore moins. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais apporter un message qui s'appelle « La croix est le commencement du rêve de Dieu pour ta vie ». Je n'étais pas avec vous la semaine passée pour la Pâque. Il y a des gens qui vont dire « Ah, il prêche la croix, c'était la semaine passée ». Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la croix, c'est 365 jours par année. Pour moi, Noël, la naissance de Christ, c'est 365 jours par année. J'accepte des cadeaux 365 jours par année. En fait, l'expérience de la croix est quelque chose de phénoménal. Et savez-vous, une des choses que j'aime de la croix, l'un des facteurs que j'aime le plus de la croix, c'est que Dieu a complètement déjoué le diable. Est-ce qu'il y a des amateurs de sport ici dans ce lieu ce matin? Vous savez, nous au hockey, par exemple, ici au Canada, le hockey est très populaire. Le gardien de but, ce qu'il fait, c'est que quand le joueur envoie une rondelle, il répond au tir, il bloque le tir en répondant au tir. Mais dans le soccer ou le football européen, le gardien de but est souvent dans un état de tristesse profonde. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, il ne répond pas au tir, il doit anticiper le tir. C'est pour ça qu'il y a des images très drôles des fois où tu vois le gardien, il est sûr que le gars va envoyer le ballon comme ça. Donc, il se lance comme ça dans les airs et là, tu vois le ballon arriver complètement de l'autre côté. C'est très humiliant. Il est complètement déjoué. Eh bien, la croix, le diable pensait que c'était la fin, mais en fait, ce n'était que le commencement. Le diable a été déjoué. Et c'est pour ça que ce matin, je vais apporter un message. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être relativement nouveaux avec nous. Vous allez peut-être comprendre la dimension de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, peut-être dans une dimension nouvelle, même si vous êtes quelqu'un qui est ici depuis une centaine d'années. Vous allez quand même, je souhaite que vous puissiez comprendre une nouvelle dimension de la croix, parce que la croix, ça avait l'air de quelque chose de la fin, mais en fait, ce n'était que le commencement. La croix avait l'air de quelque chose de faible, mais en réalité, c'était une puissance absolument extraordinaire. Et c'est la même chose dans notre vie. Peut-être que parfois, peut-être que ce matin, tu as l'impression que c'est la fin. Peut-être que tu penses que c'est fini. Peut-être que tu penses que t'es fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec Dieu, ce n'est que le commencement. Le commencement du rêve de Dieu. On a parlé beaucoup du rêve de Dieu dans les dernières semaines, au travers particulièrement de Joseph. Et le rêve de Dieu, en fait, ce n'est pas comme on fait parfois ici au Québec, ce qu'on appelle un rêve de pizza. Vous savez, un rêve de pizza, c'est de manger une pizza trop tard et tu as mal digéré, tu as fait toutes sortes de rêves bizarres dans la nuit qui n'ont rien à voir avec ta vie. Mais le rêve de Dieu, ce n'est pas ça. Le rêve de Dieu, c'est le plan de Dieu pour toi. Quand tu vis le rêve de Dieu, tu vis le plan de Dieu. Et donc, la croix, c'était l'accomplissement du plan de Dieu pour toi et moi. Donc, ce n'était pas la fin, c'était le commencement. Et c'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, ça va apparaître sur l'écran, « Car la prédication de la croix est une folie. » Dans le texte grec, c'est une absurdité. La prédication de la croix est une absurdité, une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le mot puissance qu'il utilise dans le grec, c'est le mot dynamis, qui veut dire puissance qui nous rend capables, puissance intensifiée. C'est le même mot que Jésus va utiliser avec ses disciples quand ses disciples sont dans un état de terreur après l'avoir vu être crucifié. Et là, il va leur donner le plus grand de tous les mandats d'évangéliser le monde. Mais il leur dit, vous recevrez une puissance, vous recevrez le dynamis. Et le dynamis a rendu une bande d'incapables capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Et il dit ici que la croix est une absurdité pour ceux qui périssent, mais que ceux qui sommes sauvés, c'est un dynamis. La croix te rend capable de faire des choses que normalement tu n'es pas capable de faire. C'est là qu'il fallait dire amen, c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il dit également dans Galates chapitre 2 au verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ », c'est l'apôtre Paul qui parle. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » La croix est une folie, mais je veux déclarer ce matin pour chacun d'entre nous que c'est une puissance. Et alors qu'on peut penser que c'est la fin, ce matin, je vais annoncer dans la vie de plusieurs personnes dans ce lieu, j'aimerais annoncer ton commencement. C'est le commencement. En fait, il y a des fois dans nos vies des moments où on a l'impression de mourir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, parfois, il faut mourir pour vivre. Parfois, il faut mourir pour vivre ce que Dieu a prévu pour notre vie. En fait, la croix est quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a des business qui investissent des fortunes pour des logos. Est-ce qu'on peut faire apparaître les logos sur l'écran en ce moment? En fait, ici, on voit, par exemple, à gauche, le logo de Mac, Apple, qui sont des ordinateurs bien. Et ensuite, on voit, en fait, ces logos sont connus. Tu vas aller dans le fin fond de la brousse, dans le monde entier, n'importe où, sur une île perdue. Les gens connaissent ces logos. Ensuite, le logo qui est dans le milieu, c'est un logo qu'on appelle McDo. Et ensuite, le logo à côté, c'est Nike que tu dois prendre après avoir mangé McDo. C'est bien, ce sont des logos, écoutez bien, ce sont des logos connus partout dans le monde. Mais je vais montrer la prochaine image qui est le logo ultime de tous les logos qui est connu au travers des siècles, qui ne mourra jamais. C'est... La croix est le catalyseur du plan de Dieu pour l'humanité. C'est bon. Il faut que j'entende un amen ce matin. En fait, la croix, c'est simple. La croix, c'est Jésus qui accomplit le plan de Dieu pour que toi et moi, on puisse accomplir nous aussi le plan de Dieu pour notre vie. C'est aussi simple que ça. La croix est la porte d'entrée vers le plan de Dieu dans ta vie. Le plan de Dieu ne peut pas se réaliser pleinement, totalement, complètement dans ta vie, à moins que tu passes par la porte d'entrée qui s'appelle la croix. C'est le chemin que Jésus a ouvert. C'est ça qui a tout changé, qui a permis la possibilité pour chacun d'entre nous d'entrer dans le rêve de Dieu et de vivre la plus belle vie qui existe sur la terre, la vie que Dieu a prévue pour toi et moi. Amen. Les Grecs en ont fait une philosophie. Les Romains en ont fait une religion, les Romains en ont fait un système politique. Mais la croix, ultimement, c'est l'accomplissement du plan de Dieu pour toi et moi. Et je veux déclarer ce matin, dans la vie de chaque personne, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, je veux déclarer sur votre vie ce matin, rien de moins que le rêve de Dieu, le plan de Dieu pour Sophie, au nom de Jésus. Ce matin, je veux vivre le plan de Dieu, le rêve de Dieu, ça me parle tellement, l'importance de vivre le plan de Dieu. Et maintenant, on va aller un peu plus profond dans l'évangile de Luc, le deuxième plus beau nom dans la Bible après Jésus. Luc chapitre 14, verset 27, il dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Et là, ici, je veux parler pendant un instant du concept, du principe de porter sa croix. Souvent, Beaucoup de gens ont une conception de porter sa croix comme avoir une vie misérable. C'est misérable, c'est dur, mais je porte ma croix. Des fois, je parle à des gens qui sont dans le ministère comme ça. Ah, tu sais, le ministère, c'est pas évident, c'est dur, des combats, des attaques, les gens sont difficiles, mais je porte ma croix. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est pas ça du tout, porter sa croix. Porter sa croix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Porter sa croix, dans le texte qu'on étudie, on va le voir dans un instant, c'est de faire de Jésus le centre de ta vie et d'obéir à sa volonté. Et sa volonté, son plan, son rêve, c'est la meilleure chose qui peut arriver dans ta vie. Donc, ce n'est pas misérable. Quand tu portes ta croix, c'est que tu acceptes ce que Dieu a rêvé, a intentionné, je ne sais pas si ça se dit, mais intentionnalisé, a voulu, enfin. Dis à ton voisin, Dieu veut le top pour toi. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu, le troisième plus beau nom, Matthieu chapitre 16, verset 21, il dit, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Écoutez bien ceci, verset 22. « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. » Il reprend Jésus. Il dit à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan! » Ça devait être toute une atmosphère quand même. « Et tu mets en scandale, car, écoutez bien ceci, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et là, il y a un contexte très, très spécial. Au début, quand j'ai commencé à lire la Bible, au début, je ne comprenais pas ce passage. Pourquoi? Parce que Jésus est en train d'annoncer les choses terribles qui vont lui arriver. Et Pierre a une réaction d'un ami, de quelqu'un qui t'aime. Il veut le protéger. On va tout faire pour que ça ne t'arrive pas. On va tout faire pour que ça te protéger. On va te garder en sécurité. Et là, Jésus répond, « Arrière de moi, Satan. » En fait, l'apôtre Pierre, en voulant protéger Jésus, est en train de l'éloigner du plan de Dieu. Ouh, ça va être intéressant dans les prochaines secondes. Et c'est pour ça que Jésus, sans hésiter, « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'est que tu fasses le plan de Dieu. Le plan de Satan, c'est que tu manques le plan de Dieu. Quelqu'un qui a compris ça va aller très loin dans sa vie chrétienne. Le plan de Dieu, c'est un plan magnifique, c'est son rêve, c'est ce pourquoi tu as été créé, c'est ton but sur la terre, c'est l'ultime, et le diable veut tout faire pour gâcher ça. C'est pour ça que Jésus, sans hésiter, dit « Arrière de moi, Satan ». Il dit « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu ». Le mot grec qu'il utilise pour « tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu », c'est le mot grec « phroneo » qui en anglais se traduit par « purpose ». Intention, tes pensées ne sont pas les intentions de Dieu. Tes pensées n'est pas le rêve que Dieu a prévu. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention parfois à notre entourage. Ouh, je l'ai dit, Sophie. Il faut faire attention parce que parfois, Satan, le diable, il faut le dire, aujourd'hui, des fois, on a peur de dire Satan, le diable. Je le dis, Satan, le diable. Il existe. Et son but, parfois, il va utiliser des personnes qui ne sont pas nécessairement des personnes mal intentionnées. L'apôtre Pierre n'est pas mal intentionné du tout. Il veut protéger Jésus. Il va utiliser des personnes pour te faire manquer, dévier, passer à côté du rêve de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à dire à tout le monde « Arrière de moi, Satan ». Demain matin au bureau, « Patron, arrière de moi, Satan ». Un peu de sagesse. Ce sera mon prochain message sur la sagesse quand tu vas me réinviter. On a un autre exemple dans Actes chapitre 21, verset 10. « Comme nous étions là, » c'est l'apôtre Paul. Écoutez bien, c'est vraiment puissant. « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » Ce n'est pas « Voici ce que déclare le comité. » Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront. Il parle de Paul. De la même manière, à Jérusalem, ils le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous, Et nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous ?» En pleurant et en me brisant le cœur. « Je suis prêt. » Quelqu'un ce matin dit, « Je suis prêt. » Et non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. C'est fort quand même. Il y a un prophète qui dit, le Saint-Esprit dit, « Tu vas partir à Jérusalem, ça va être des problèmes. » Vous savez, souvent, quand il y a des prophètes, les gens s'assoient, tout le monde s'assoit dans la première rangée pour avoir une prophétie. Tu vas être multimilliardaire, tu vas avoir ton jet, tu vas prospérer. Tout le monde s'assoit dans la première rangée. Agabus, lui, tout le monde est assis dans la dernière rangée. Tu vas être dans les problèmes. Ils vont te persécuter à Jérusalem. Et là, les disciples disent, ils disent à Paul, « Non, il ne faut pas que ça arrive, reste ici, n'y va pas! » L'apôtre Paul est un peu moins radical que Jésus. Il n'a pas dit « Arrière de moi, Satan », mais il dit « Qu'est-ce que vous faites en me brisant le cœur? Je suis prêt à vivre le plan de Dieu. Je dois aller à Jérusalem, même si ça va être dur. C'est ce que Dieu rêve, c'est ce que Dieu veut et qu'il en soit ainsi. » Et je vais aller encore plus loin ce matin. Matthieu, chapitre 16, verset 25, il dit « « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Le mot « sauver » dans le grec, c'est le mot « sozo ».« Sozo », ça veut dire « sortir du danger pour mettre en sécurité ». N'est-ce pas la nature humaine? N'est-ce pas notre réflexe naturel? La plupart des gens, on se bâtit une vie pour être de plus en plus en sécurité. Plus on vieillit, plus qu'on cherche la sécurité. Je veux être sécurisé financièrement. Je veux être sécurisé dans ma carrière. J'ai une job que j'haïs grave. J'haïs ma job. C'est un supplice à tous les matins de me lever. Mais c'est sécuritaire. J'ai un salaire assuré. Je veux me sécuriser un ministère sécurisant qui ne m'étire pas trop, qui ne me sort pas trop de la zone de confort. Je veux sécuriser ma vie. Et là, Jésus, il dit, celui qui veut sécuriser sa vie, la perdra. Oh! En fait, il dit, celui qui voudra sozo sa vie, la perdra. Savez-vous, c'est quoi le mot perdre ici dans le grec? C'est apolumi, qui veut dire détruire, périr, tuer. En d'autres mots, celui qui voudra sécuriser sa vie va tuer le plan de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, j'aurais peut-être dû rester couché ce matin. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Le mot grec, c'est eurisko, qui veut dire découvrir. Celui qui va perdre sa vie va trouver la vraie vie. Pourquoi? Parce que quand tu renonces à ta vie, pour faire ce que lui a prévu, tu découvres le rêve de Dieu. Mais la majorité des gens ne vivent pas la puissance de la croix. La croix, c'est le commencement. Et le commencement, c'est de porter sa croix et de dire, « Ce que tu veux, je le ferai. Ce que tu veux que je devienne, je deviendrai. » Je ne vis plus ma vie en fonction de ce que... Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Je parle du plan de Dieu. Mais je ne vis plus ma vie dans le but de sécuriser ma vie. Je vis ma vie en fonction d'accomplir le plan de Dieu. Et si vous étudiez la Bible du début jusqu'à la fin, les hommes et les femmes de la Bible, c'est constamment sortir de la sécurité alors que ça commence à être sécuritaire. Oh, que c'est bon ce que je viens de dire là. Constamment, Abraham, 75 ans, tout est sécuritaire, business, fonds de pension, retraite assurée, quitte tout. Quitte Charan, il n'y a pas de futur à Charan, bang, va où je te conduirai. Laisse-les tranquilles. Combien connaissent l'histoire d'Abraham, savent qu'à partir de 75 ans, c'est là que c'est devenu intéressant. Partout, sors de la barque, marche sur les eaux, va, quitte le pays, va, sors du désert depuis 40 ans, buisson ardent, va affronter le pharaon de l'Égypte. C'est que ça! Celui qui est prêt à perdre sa sécurité, trouvera la vraie vie. Quelqu'un dit amen ce matin. On veut constamment te sécuriser. Partout autour de nous, la mentalité, toute, même dans les églises. Il y a même des églises qui font des églises sécuritaires. Si, par exemple, Nouvelle Vie avait voulu être sécuritaire, on serait tous compilés à Longueuil. Le bâtiment va être payé, on est 150 prédicateurs dans la salle, on fait notre tour chacun notre semaine, on est sécuritaire, on n'investit pas, on ne dépense pas de l'argent. Ce n'est pas le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est qu'il y en ait partout des ministères, des églises, des âmes sauvées, des baptêmes, des implantations, des apôtres, des pasteurs de jeunes, des jeunes sauvés, des maisons pour les enfants, des maisons pour les pauvres, des maisons... J'étais en Suisse il y a quelques semaines, et puis on a prié le dimanche soir dans une église, on a prié pour une jeune femme qui partait le lendemain, qui partait pour aller évangéliser aux frontières de l'Ukraine, là où c'était vraiment tendu. Elle ne pouvait même pas dire où elle allait, c'était trop dangereux, l'information ne devait pas circuler. On a prié pour elle, et à la fin, j'étais en train de discuter avec elle, et puis il y a une dame qui t'avait dit « Pourquoi tu fais ça? C'est bien trop dangereux! » Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est vrai que c'est dangereux? Mais elle a dit, je le fais parce que Dieu m'a demandé d'y aller. Combien de gens encore aujourd'hui sont prêts à faire ce que Dieu leur demande de faire? Mes amis, si chacun d'entre nous, on faisait à partir de maintenant ce que Dieu nous demande de faire, il y aurait une méga révolution spirituelle. Envoie le réveil, on prie pour un réveil, mais garde-nous en sécurité. Eux, dans les actes, c'est la persécution qu'ils ont envoyé évangéliser. Ça les a forcés. Les problèmes les ont forcés. On est menacés, il faut sortir. Et c'est ça qui a fait l'expansion de l'Évangile. L'Évangile est le contraire de la sécurité. Mais ce qui est le plus sécuritaire, c'est l'Évangile. Il y a quelqu'un après-midi qui va dire « Ah, c'est ça qu'il voulait dire! » Quelqu'un dit un « Amen » convaincant ce matin. « Seigneur, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Je suis en train de lire en ce moment la biographie de Hudson Taylor. Je ne vais pas raconter l'histoire complète, mais le monsieur est parti en Chine à l'époque où il n'y avait pas de mission en Chine. Et il a commencé à apprendre apprendre le langage, c'est un défi. Et il portait des vêtements comme eux là-bas. Et il a révolutionné complètement la mission en Chine. Il s'est mis en danger. Tout le monde disait, t'es fou, il était en Angleterre, en sécurité, carrière, tout ça. Il est parti et il a révolutionné l'histoire de l'Église en Chine. Mais s'il avait voulu rester dans son petit emploi sécuritaire, rien de ça serait arrivé. Mais le rêve de Dieu, c'est que ça arrive. Il y a plein de choses qui doivent arriver. Mais ça prend des hommes et des femmes qui disent, la croix et la porte d'entrée. Jésus est allé jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout. Imaginez si Pasteur Claude, je pensais à ça ce matin, imaginez si Pasteur Claude Houde avait décidé de rester en sécurité. Juste pas aller dans le ministère. Juste avoir bien gagné ma vie, bon emploi, il n'y a rien de mal à ces choses-là. Mais Dieu voulait, Dieu, même pendant que lui, il ne savait même pas, Dieu rêvait de nouvelles vies. Pourquoi Dieu rêvait de nouvelle vie? Parce qu'il rêvait pour toi. Il rêvait pour tes enfants. Ce que Dieu va faire dans tes enfants, des enfants que tu n'as même pas encore. Oh là, ça c'est bon. Dieu rêve sur tes enfants que tu n'as même pas encore. Et pour que les enfants que tu n'as même pas encore soient touchés et entrent dans le rêve de Dieu, il fallait que Pasteur Claude Houde, il y a je ne sais pas combien d'années, réalise le rêve de Dieu pour activer le rêve de Dieu, pour que nouvelle vie prenne place, pour que toi, tu donnes ta vie dans ce lieu, pour qu'ensuite tes enfants... Dieu a une perspective beaucoup plus grande que nous pouvons avoir. Je viens de dire quelque chose de super fort, là. Dieu a une perspective beaucoup plus grande. Quand Jésus était à la croix, Dieu nous voyait déjà. Pourquoi? Parce que Dieu a un souvenir de notre futur. Il y a des gens qui... Je dis amen à mon propre message ce matin. C'est pour ça, Dieu a un souvenir de ton futur. Imaginez si tu savais le futur de quelqu'un précisément et tu sais que s'il fait ça, ça va être glorieux. Tu t'en souviens que Sophie, elle a fait ta-ta-ta-ta-ta-ta, ça a donné wow! Toi, tu t'en souviens dans tes souvenirs. Donc, si tu retournes dans le passé de Sophie, tu vas dire, fais ça, je t'en supplie, fais ça, ça va être hallucinant. C'est ce que Dieu fait sur ta vie. Fais ça, ça va être glorieux. Pourquoi? Combien sont d'accord avec nous, avec moi ce matin, pour dire que la croix, avec nous, on a un souvenir de l'œuvre de la croix. Combien sont d'accord pour dire c'est glorieux? Combien sont d'accord pour dire c'est glorieux? Alors, si on est à côté de Jésus dans le jardin de Gethsémané, qui est dans l'agonie, j'aurais été mal à l'aise, mais j'aurais dit, Jésus, ça va être glorieux. Dis à ton voisin, ça va être glorieux. En fait, Satan a toujours voulu faire manquer à Jésus la croix. Avant même, au début, Hérode cherche le bébé pour le faire mourir. Jésus, à l'âge de 12 ans, sa mère le cherche partout. Il est où? Il est où? Et finalement, elle le trouve, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Jésus la regarde et dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Jésus, au début de son ministère, va faire un jeûne de 40 jours. La Bible dit que le diable a tenté dans le désert. Tout le temps dans le but de le faire manquer la croix. Même avant la croix, Ponce Pilate lui-même ne voulait pas le tuer. Il dit, je n'ai rien trouvé dans cet homme qui mérite la mort. Qu'est-ce que je fais avec ce dossier-là? Je ne veux pas le tuer. Même Ponce Pilate, à la base, ne veut pas l'envoyer à la croix. Donc, finalement, si on se pose vraiment la question, qui a tué Jésus? Est-ce que c'est Judas? Est-ce que c'est Pilate? Est-ce que ce sont les Juifs? Non! Jésus ne s'est pas fait enlever sa vie. Il a donné sa vie. C'était le rêve de Dieu que Jésus-Christ aille mourir à la croix parce que le rêve de Dieu, c'était toi et moi. Son rêve, c'est que tu puisses et que je puisse devenir tout ce qu'il a prévu lorsqu'il nous a pensé, désiré et créé. Donc, il rêve que son fils aille à la croix. Il va tout faire pour que ça arrive. Et il va même utiliser la méchanceté, la jalousie, l'incompréhension, la religion. Il va tout utiliser pour que le plan divin puisse s'accomplir. Oh là, je viens de dire quelque chose de bon. Ça veut dire que ton beau-frère, ta cousine, ton patron, les impôts, le gouvernement, les maladies, les problèmes, l'Ukraine, tout ça, Dieu utilise ça pour que son plan se réalise. La croix est le commencement du rêve de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, Jésus dit dans Luc chapitre 22, 42, il dit, Père, il est dans le jardin de Gethsémané, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le mot éloigner ici, c'est le mot grec paraphéro qui veut dire détourner, éviter, envoyer au loin, enlever. Si c'était possible d'envoyer au loin cette coupe. Et quand il parle en grec de la coupe, il ne parle pas nécessairement de la coupe, il parle du contenu de la coupe. Si c'était possible que le contenu de la coupe soit envoyé au loin. Combien de fois on s'est retrouvé dans une position comme ça dans notre vie? Moi, ça m'est arrivé souvent. Si c'était possible que ce soit plus facile, si c'était possible de faire autre chose, si c'était possible d'éviter ce chemin-là. Mais dis non pas que, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Volonté, écoutez bien, c'est le mot grec téléma, qui veut dire désir. Souhait, en d'autres mots, ton rêve. Que ton rêve se fasse. Si c'était possible que le contenu de cette coupe s'éloigne de moi, mais que ton rêve se fasse. Il y a souvent, ça m'arrive le dimanche matin, quand je me lève à 4h30, quand je prêche le dimanche matin, souvent quand je me réveille, je me dis que cette coupe s'éloigne de moi. Les gens pensent que tu te lèves, yeah, jusqu'à l'estrade. Il y a des fois que c'est comme ça, mais il y a des fois que j'ai rien à dire. C'est compliqué, mon travail. Ce serait plus facile de juste aller m'asseoir. Il faut que je monte sur l'estrade, tout le monde me regarde, il faut que je parle, il y en a qui ne m'aiment pas, toutes sortes de choses comme ça. Peux-tu rester tranquille que cette coupe, non pas ma volonté, mais ton rêve? Tu veux que je monte puis que je parle? Je vais monter puis je vais parler. Tu veux que j'aille à l'université? Je vais aller à l'université. Tu veux que je change d'emploi parce que j'ai en moi un potentiel pour beaucoup plus que cet emploi? Je change d'emploi. Tu veux que j'aille en mission? Je vais en mission. Tu veux que je quitte la France glorieuse pour venir dans un endroit comme le Canada où il fait l'hiver 10 mois sur 12? Je vais le faire. Gethsémané, c'est là que... En fait, à Gethsémané, il y a juste toi qui peux prendre la décision. Ton beau-frère ne peut pas prendre la décision à ta place. Ton épouse, ton époux ne peut pas prendre la décision à ta place. Tu peux avoir un époux qui boit la coupe et une épouse qui ne boit pas la coupe. Tu peux avoir une épouse qui boit la coupe, un époux qui ne boit pas la coupe. La coupe, elle est individuelle. La coupe, elle est individuelle. Ce n'est pas tes parents qui peuvent boire la coupe à ta place. Tu ne peux pas boire la coupe à la place de tes enfants. Tu peux les influencer, leur donner les 50 meilleures raisons pour lesquelles ils devraient boire la coupe. Tu peux être un modèle de buveur de coupe pour leur donner le goût de boire la coupe, mais chacun doit boire sa coupe. Le plan de Dieu, on a un plan, il y a un plan de Dieu pour le groupe ici, mais il y a un plan de Dieu, un rêve de Dieu pour chaque individu dans cette salle, sans exception. Et ça commence avec la croix. Amen. Jean, chapitre 12, verset 24. Je termine dans un instant. Donnez-moi toute votre attention, j'ai gardé le punch pour la fin. Un vieux truc de prédicateur. Écoutez bien ceci. Est-ce que la mort peut donner la vie? La réponse, c'est oui. Il dit dans Jean, chapitre 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Quand il dit le grain de blé, s'il ne meurt, il reste seul. Le mot seul dans le grec, c'est le mot monos. Monos, ça veut dire désolation, isolation, privation. Si le grain qui est mis en terre, il ne meurt pas, en d'autres mots, il monos, isolation, privation, en d'autres mots, il ne se passe rien. Et c'est pour ça que dans certaines églises, il ne se passe rien. C'est pour ça que certains ministères, il ne se passe rien. C'est pour ça que certains business, il ne se passe rien. C'est pour ça que certaines personnes dans nos églises, il ne se passe rien. Parce que le grain est dans la terre, mais il ne meurt pas. Mais Jésus a dit, par contre, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le mot « fruit », c'est un de mes mots préférés. Le mot « fruit » dans le grec, c'est le mot « karpos ». Il faut que vous appreniez ce mot-là. Écrivez ça chez vous, « karpos », quand vous vous levez le matin, « karpos ». Pourquoi? Parce que « karpos » veut dire « résultat, profit, gain, descendant, moisson ». Si le grain meurt, il va produire du « karpos ». Ministère, karpos. Église, karpos. Business, karpos. Karpos veut dire des résultats. Quand Jésus est mort, il a donné naissance à du méga karpos. Des descendants, des fruits, des résultats, des gains, des profits, une méga moisson. Une église qui meurt pour faire le plan de Dieu va être une église où il va y avoir du karpos. Quelqu'un qui meurt à ses ambitions pour faire le plan de Dieu, ta vie va donner du karpos. Quelqu'un qui dit « je vais boire la coupe pour faire ce que tu veux, Seigneur », tu vas vivre du méga karpos dans ta vie. Dieu désire pour toi rien de moins que le karpos. Et c'est simple, c'est de dire « Seigneur, aujourd'hui, la croix va être le commencement de ton rêve dans ma vie. Aujourd'hui, en cette journée d'avril 2022, je commence à porter ma croix et à faire le plan de Dieu pour ma vie. » Quelqu'un dit « Amen ». Est-ce qu'on peut faire apparaître l'image du monsieur qui s'appelle Benigno Aquino? C'est le monsieur qui est dans le milieu dont tous les journalistes regardent. Benigno Aquino était le chef dans les années 70, à l'époque, aux Philippines, à l'époque de Ferdinand Marcos. C'était le chef de l'opposition. Et il s'est fait jeter en prison. Et pendant 7 ans, il a été martyrisé, maltraité. Il a souffert le martyr en prison pendant 7 ans. Mais il y a un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Chuck Colson, qui a été pris dans le scandale du Watergate, qui s'est retrouvé lui aussi en prison. Et en prison, il a découvert Christ. Et en prison, il est sorti de prison et il a écrit un livre qui s'appelle « Born Again »,« Né de nouveau ». Attends, ça va être bon, là, ça va être bon. Ce monsieur-là, Chuck Colson, quand il a entendu parler de ce monsieur-là, Benigno Aquino, il lui a envoyé son livre en prison. En prison, ce monsieur-là a découvert Jésus-Christ. La descendance Carpos. Ce monsieur-là, finalement, il a réussi à... Ils l'ont sorti, ils l'ont exilé. Il est allé aux États-Unis pour se prendre soin de sa santé, se restaurer, fortifier sa foi. Et dans l'avion, au moment où vous le voyez ici, il a décidé de retourner aux Philippines pour aider sa nation. Et au moment, tout le monde lui disait, « N'y va pas! N'y va pas! Ils vont te tuer! » Au moment où vous voyez ce monsieur-là, dans quelques minutes, il est mort. Il ne sait pas, mais dans quelques minutes, il va être assassiné. Pourquoi? Parce que dans quelques minutes, l'avion, il va sortir de l'avion. Et quand il va sortir de l'avion, il va se faire tirer dessus et il va mourir. Il y a eu, à ses funérailles, plus de 2 millions de personnes qui sont venues assister à sa funéraille. Ça a activé le mouvement d'opposition qui a fait tomber le régime dictatorial de Ferdinand Marcos. Sa femme est devenue la leader du pays. Par la suite, son fils deviendra le leader du pays. Et il avait dit ceci, il avait dit, « Le peuple philippin vaut la peine que je meure pour eux. » Puis ils ont fait comme une fondation, puis il a dit quelque chose de vraiment touchant. Il a dit, « Que vaut un sacrifice s'il peut changer la vie de quelqu'un aujourd'hui? Un pays demain et changer l'histoire du monde pour toujours. » Le sacrifice de Jésus à la croix a changé l'histoire du monde pour toujours, a changé notre éternité pour toujours, a changé notre vie pour toujours. Et l'homme et la femme dans cette salle ce matin qui dit « Moi aussi, je suis prêt à boire la coupe et à faire exactement ce que Dieu a en tête pour ma vie. » Prépare-toi à voir de la descendance. Prépare-toi à voir des résultats. Prépare-toi à voir des fruits extraordinaires qui te dépassent, que tu ne peux même pas imaginer en ce moment. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. On va faire une prière ensemble dans un instant. Je crois que c'est un moment extrêmement important pour plusieurs personnes dans ce lieu. La croix est le commencement du rêve de Dieu dans notre vie. Et la croix, elle est offerte, l'œuvre de la croix, c'est pour la personne qui, pour la première fois peut-être, découvre Jésus-Christ. Mais c'est également pour toutes les personnes qui ont besoin de retrouver, de retourner à la croix dans leur vie. En fait, si ce matin, Pasteur Sophie, tu m'avais dit, « Luc, je te laisse ton message, au lieu de prêcher 35 minutes, 40 minutes, tu vas prêcher 2 phrases. » Si tu avais dit ça va être ça, tu peux juste prêcher 2 phrases. Je pourrais résumer le message. En fait, je pourrais résumer toute l'affaire au complet, toute la vie chrétienne, toute l'expérience. Je pourrais résumer ça en 2 phrases ce matin. C'est simple. Les gens compliquent l'Évangile. C'est ultra simple. Première phrase numéro 1. Fais de Jésus-Christ la fondation, le fondement de ta vie. Première phrase. Deuxième phrase. Aligne ta vie, tout ce que tu as, tes finances, ton agenda, tes priorités, tout avec son intention et son plan pour ta vie. C'est aussi simple que ça. La croix au centre. Jésus-Christ au centre. Je fonde ma vie. Je fonde ma maison. Je fonde ma business. Je fonde mon ministère. Je bâtis sur la fondation de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Et j'aligne ma vie avec ce qu'il veut vraiment pour ma vie. prépare-toi à voir des choses incroyables prendre place dans ta vie dans les prochaines années. Ça va être de la folie. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux pendant un instant, on va prier. Deux questions, et on va prier sur ces deux questions, et je vous laisse partir par la suite. Première question, si vous êtes ici ce matin, c'est vraiment personnel. Ici, depuis la première fois, peut-être ce matin, ou depuis quelques semaines, quelques mois, plusieurs années, ça n'a pas d'importance. Si ce matin, vous dites, Jésus-Christ n'est pas la fondation de ma vie. Ça m'intéresse, je l'aime, je vais à l'église à l'occasion, je vais à l'église régulièrement, mais la vérité, puis il y a juste vous qui la savez, la vérité, c'est entre vous et Dieu. Ça ne me regarde même pas, c'est entre vous et Dieu. Mais si ce matin vous dites, je veux, je prends la décision aujourd'hui, je veux que Jésus-Christ soit le fondement de ma vie. La croix, l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort sur la croix, je veux que ça devienne le fondement. Je veux que Jésus soit ma vie. Je veux vivre pour Jésus. Je veux donner mon cœur à Jésus. Je veux suivre Jésus. Je veux porter ma croix. Si c'est ton désir ce matin, juste là où tu es, je te demande de lever ta main. Pas devant moi, tu la lèves devant Dieu en disant, je prends la décision aujourd'hui. Si ce matin, tu prends la décision, vous prenez la décision, je veux que Jésus-Christ soit la fondation de ma vie. Dieu voit toutes ces personnes qui lèvent la main en ce moment. Soyez ultra bénis. Dieu vous voit. Dieu vous touche. Dieu va changer votre vie. Préparez-vous, ça va être magnifique, ça va être beau. Amen. Soyez bénis. Le cœur de Dieu se réjouit. Merci de votre réponse, votre honnêteté devant Dieu. Deuxième question, aussi simple que la première. Ce matin, peut-être que vous allez à l'église, peut-être que vous aimez beaucoup Jésus, mais la vérité, encore une fois, il y a juste vous qui le savez, vous et Dieu. La vérité, c'est que ma vie n'est pas vraiment alignée avec son plan. Je fais un peu ce que je veux, je fais un peu ce qu'il veut, je ne sais pas du tout ce qu'il veut, je ne sais pas du tout ce que je veux, je fais vraiment mon affaire, mais je vais à l'église, peu importe. Et vous dites, ce matin, les choses vont changer. À partir d'aujourd'hui, la croix va être le commencement du rêve de Dieu. Aujourd'hui, je m'aligne avec le rêve de Dieu. Aujourd'hui, je choisis, je prends la décision personnellement, pas en couple, pas en famille, même si toutes ces choses-là sont importantes d'être en famille. Mais là, ce matin, je suis seul devant Dieu. Je prends la décision ce matin de boire la coupe et d'accomplir ce que Dieu veut, peu importe ce que ça va coûter, peu importe ce que ça va impliquer, peu importe s'il faut déménager, peu importe s'il faut changer d'emploi, peu importe s'il faut que je change mon budget, peu importe s'il faut que je downsize ma vie, peu importe s'il faut que je retourne aux études, peu importe s'il faut que je me lance dans le ministère, il faut que j'aille à l'école biblique, peu importe! Ce matin, je prends la décision d'aligner ma vie avec ce que Dieu a prévu. Si c'est ton désir, lève ta main devant le Seigneur, partout dans cette salle, on va prier ensemble.